Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Prière de l'Angélus, comme tous les dimanches au Vatican, Benoît XVI a commenté l'évangile du jour dans lequel Jésus parle à ses disciples de son retour sur la terre à la fin des temps, compte rendu dès le début de ce magazine. Brisons les chaînes, c'est le titre d'une exposition et d'un congrès qui s'est achevé à Rome ce dimanche. Il évoquait la campagne anti-esclavagiste du cardinal Lavigerie au XIXe siècle. Nous reviendrons sur cette grande figure du catholicisme français. L'humilité comme manifestation de l'humanité. Nous en parlerons avec un théologien et moine bénédictin, le frère Luigi Gioia. Bienvenue dans ce magazine. Depuis la fenêtre de ses appartements, place Saint-Pierre, Benoît XVI a commenté l'évangile du jour, dans lequel Jésus parle à ses disciples de son retour sur la terre à la fin des temps. Le pape a rappelé lors de la prière de l'Angélus que les chrétiens ne s'arrêtaient pas à la curiosité pour les dates et les prévisions. Face au relativisme, aux catastrophes naturelles et aux guerres qui ne manquent pas, le pape a au contraire assuré que les chrétiens s'appuyaient sur le roc solide qu'est Dieu. Antonino Gallofaro.
Le pape s'est arrêté ce dimanche sur les paroles eschatologiques du Christ rapportées dans l'évangile selon saint Marc, des mots que l'on retrouve également chez les évangélistes Luc et Matthieu. Le Christ parle à ses disciples de son retour sur la terre à la fin des temps, un passage parmi les plus difficiles des évangiles tant dans le contenu que dans sa forme. Pour exprimer un avenir qui nous dépasse, le Christ utilise un lexique et des images empruntées à l'Ancien Testament. Il introduit cependant un nouveau centre, lui-même, le mystère de sa personne, de sa mort et de sa résurrection. Le passage de l'Ancien Testament s'ouvre sur des images cosmiques et apocalyptiques. Le soleil s'obscurcira, la lune ne dispensera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront bouleversées. Un sombre tableau relativisé car alors arrivera le Fils de l'homme des cieux dont la puissance et la gloire. C'est Jésus qui relie le présent et le futur. Les paroles des prophètes se réalisent finalement en la personne du Messie de Nazareth. C'est lui, Verbe qui s'est fait chair, qui au milieu des bouleversements multiples du monde représente un point stable et solide. Ce sont ses propres mots qui orientent la pensée et le chemin de l'homme sur la terre. C'est pour cela que Jésus ne décrit pas la fin du monde et lorsqu'il utilise des images apocalyptiques, il ne le fait pas comme le ferait un voyant. Au contraire, rappelle le pape, il le fait pour soustraire ses disciples, quelle que soit leur époque, à la curiosité des dates, des prévisions. C'est la parole de Dieu et uniquement elle qui constitue notre boussole pour marcher aujourd'hui et entrer demain dans la vie éternelle. Aujourd'hui aussi, les calamités naturelles, les guerres et les violences affectent la vie des hommes. Le repère que constitue le Christ est d'autant plus important que le monde contemporain baigne dans un relativisme dont les effets sont souvent néfastes.
Et à l'issue de la prière de l'Angélus, Benoît XVI s'est exprimé en plusieurs langues, dont le français.
En cherchant à voir autour de nous les signes de la présence de Dieu et à les accueillir, nous découvrirons le roc solide où s'enracine notre existence. Au-delà des changements qui nous atteignent, par la foi, nous communions des saints de l'amour de Dieu sur l'humanité et sur chacun de nous. Dieu est fidèle, à nous de le chercher. Pour cela, je vous invite à participer régulièrement à la messe dominicale nécessaire pour un chrétien.
Benoît XVI qui a également félicité Tawadros II, le nouveau patriarche des Coptes orthodoxes d'Égypte, la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, qui a été intronisée ce dimanche à la cathédrale Saint-Marc du Caire. Tawadros II, 60 ans, a été fait pape d'Alexandrie, patriarche de toute l'Afrique et du siège de Saint-Marc, lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre Hicham Kandil, en présence également de dizaines de hauts ecclésiastiques au riche habit brodé. Tawadros II a reçu les attributs de sa fonction, en particulier une tiare et un crucifix en or. Le 118e patriarche des Coptes d'Égypte succède à Chinoula III, décédé en mars dernier, après 4 décennies à la tête de cette communauté, qui représente 6 à 10% des 83 millions d'Égyptiens. Benoît XVI a envoyé un message de félicitations au nouveau patriarche. Il lui adresse, par l'intermédiaire du cardinal Cor, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, l'assurance de sa proximité et de ses prières. Le pape prie pour le succès du nouveau patriarche et pour une proximité, une collaboration collaboration toujours plus étroite entre l'Église catholique et l'Église copte orthodoxe, y compris dans un dialogue théologique fécond. Brisons les chaînes, c'est le titre d'une exposition qui s'est tenue à Rome du 9 au 18 novembre. Elle veut rappeler la campagne contre l'esclavage lancée en 1888 par le cardinal Charles Lavigerie, fondateur des missionnaires d'Afrique, les Pères Blancs et les Sœurs Blanches. Né en 1825 et mort en 1892, il fut archevêque d'Alger et de Carthage. Il s'est consacré à l'évangélisation du continent qu'il ne dissociait pas du souci humanitaire des populations. Ayant compris l'importance de l'inculturation du message évangélique, Lavigerie met ses nouveaux missionnaires devant une triple exigence. Vous parlerez la langue des gens, vous mangerez leur nourriture, vous porterez leurs habits. Confrontés à la réalité de l'esclavage qui ravageait les régions centrales et orientales du continent africain, Lavigerie se fait l'apôtre de la lutte contre la traite des Noirs. Appuyé par le pape Léon XIII, il lance donc en 1888 une grande campagne anti-esclavagiste en Europe et obtient des gouvernements la signature à Bruxelles en 1890 d'un acte anti-esclavagiste reprenant ses suggestions. Pour nous parler de l'homme et de son combat, Philippe Levillain, historien de l'histoire de l'Église et membre de l'Institut.
Blanc. Il a lui-même ouvert en Algérie une porte, comme il dit, sur un continent. Et donc, à partir de là, il a pu apprécier, avec une expansion de sa société, donc les Pères Blancs, comment les choses se réglaient, notamment la traite des Noirs, et notamment leur type de vie, aussi bien alimentaire que sociale, tribale, si vous voulez. Et qu'il pensait quand même que la clé de la façon dont l'Occident pouvait apporter quelque chose à l'Afrique, c'est précisément de lutter contre l'esclavage, l'esclavagisme en tout cas. C'était le premier écho que l'on a, je dirais, du souci que prend l'Église de la condition esclavagiste dans le monde.
Est-ce que cette démarche d'ouverture vis-à-vis des peuples indigènes a eu là également des effets en ce qui concerne les conversions ?
Probablement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a aidé à ce qu'on appellera plus tard la colonisation, elle a aidé à la présence française en Afrique noire. C'est-à-dire que et c'est comme ça que les Pères Blancs vont se trouver d'ailleurs en difficulté vis-à-vis des protestants ou d'autres religions. C'est-à-dire que, mais enfin, la médiation religieuse a été un des facteurs les plus importants de la colonisation, et le cardinal Lavigerie ont donné la dimension vraie de la colonisation, qui, par l'autre côté, comme vous savez, est plutôt commerciale et mercantile.
Est-ce que c'est une figure d'évêque progressiste avant l'heure ?
C'est une figure d'évêque qui dépasse, je dirais, le cadre qu'on dirait maintenant hexagonal. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit ce qu'est la dimension universelle de l'Église, en même temps qu'il voit la dimension, je dirais, universelle de la France à travers ce qui va être le colonialisme, qui est maintenant sévèrement reproché, et qui est l'expansion maritime et coloniale. Il conjoint les deux. C'est à la fois un chrétien de son époque, et d'autre part, en même temps, un républicain chrétien, qui à l'époque est quand même assez difficile à conduire.
La solidarité est au rendez-vous ce dimanche 18 novembre en France pour le Secours catholique. C'est en effet la journée de collecte nationale. La pauvreté change, la pauvreté évolue, mais la pauvreté est toujours là. Avec la crise, elle s'est accentuée partout, y compris dans l'Hexagone. Le nombre de situations rencontrées par les bénévoles reflète l'image d'une société qui va mal. La journée nationale sert donc à faire connaître les actions et les réalités de pauvreté rencontrées tout au long de l'année. C'est une occasion de lancer un appel à la générosité. Actuellement, 85% des ressources viennent des donateurs et 15% de subventions. Les dons peuvent se faire toute l'année. C'est aussi l'occasion de lancer un appel au bénévolat pour recruter de nouveaux membres et ainsi relever les plus âgés. Le Secours catholique a rendu son rapport annuel sur la pauvreté le 8 novembre dernier. En 10 ans, la précarité s'est durablement installée et touche plus particulièrement les femmes, seules et avec enfants. L'ONG a accueilli en 2011 dans ses structures 1 422 000 personnes, dont 668 000 enfants. La part des familles est passée de 47 à 53%, notamment du fait de la crise économique. L'invité de ce dimanche nous parle de l'humilité comme manifestation de l'humanité. C'est un moine bénédictin, il s'appelle frère Luigi Gioia. Après avoir passé 5 ans à Oxford, il a obtenu son doctorat en théologie patristique sur le De Trinitate de Saint-Augustin. Actuellement, il est professeur de théologie dogmatique dans la faculté de théologie de l'université Saint-Anselme à Rome. Parmi ses publications, on trouve de nombreux articles sur Saint-Bernard Tolomei, fondateur de la congrégation olivétaine à laquelle appartient le frère Luigi Gioia. Il est interrogé par Catherine Aubin.
Frère Luigi Gioia, vous êtes moine bénédictin olivétain. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix ? Vous avez aussi écrit un livre sur votre fondateur, Bernard Tolomei, qui lui insiste beaucoup sur l'humilité.
On devient moine bénédictin sans savoir trop dans quelle congrégation on entre en réalité. L'histoire m'a conduit quand j'avais 17 ans dans un petit monastère dans le sud de l'Italie qui appartient à la congrégation du Mont-Olivet. Et j'étais immédiatement fasciné d'abord par une personnalité spirituelle qui était là, un vrai père spirituel, et puis par la célébration de la liturgie. Et ce sont ces deux éléments qui m'ont séduit au début. Ensuite, c'est en entrant et en comprenant et en connaissant toujours mieux l'histoire, le charisme, la tradition d'un ordre, qu'on le choisit vraiment. Et je peux dire que plus j'ai connu la figure spirituelle humaine paternelle de Bernard Tolomei, ce saint, ce moine qui est mort en 1348, plus j'ai lu ses lettres, plus j'ai choisi d'être moine olivétain, et surtout à cause de cette humanité qui se manifeste sous la forme de l'humilité, c'est-à-dire conscience profonde de ce que c'est qu'être homme, de ce que cela comporte en termes d'ouverture à Dieu, désir de Dieu, mais aussi en termes de limitation, de pauvreté. Et je crois que la vraie humilité, c'est la vraie humanité. Voilà.
Frère Luigi Gioia, vous avez écrit sur Bernard Tolomei. Quel est le cœur de l'enseignement de votre fondateur sur l'humilité? Qu'est-ce qui vous aide à vivre aujourd'hui?
La chose principale, je crois, c'est que quoi qu'il en soit de notre vie spirituelle, quoi qu'il en soit de la profondeur à laquelle Dieu nous permet d'accéder dans la vie de prière, dans la communion avec lui, dans la foi, nous restons dans une solidarité totale avec l'humanité tout entière, avec toutes ses misères, avec toutes ses pauvretés, avec ceux qui ne croient pas ou avec ceux qui croient mal. J'ai le sentiment toujours plus profond que nous sommes exposés comme chrétiens, tout autant que les non-chrétiens ou ceux qui ne croient pas à la non-évidence de Dieu. Nous sommes exposés à l'idolâtrie, à la tentation de l'idolâtrie, et nous savons très bien combien elle a de prise dans la vie chrétienne sous la forme de la recherche du pouvoir, de la recherche de l'argent. Donc je crois qu'il ne faut pas ignorer, il ne faut pas sous-estimer ces éléments-là. Il faut être très lucide sur les idoles qu'on porte en nous, sur cette tentation constante d'athéisme qui reste enracinée en nous. Et je crois que la vraie humilité, c'est vraiment être en prise entièrement avec ces aspects de notre être, parce que c'est seulement à cette condition que notre prière devient de plus en plus authentique, que nous vivons une solidarité toujours plus profonde avec l'humanité et que nous accédons peut-être progressivement à cette compassion qui est la caractéristique vraiment fondamentale de l'amour du Père.
Frère Luigi Gioia, vous venez de parler de la prière. Qu'est-ce que la prière pour un moine bénédictin olivétain ?
Pour moi, la prière, c'est certainement me mettre devant le Seigneur, m'exposer à son silence, parce que le Seigneur est silencieux dans la prière, accepter le défi d'entrer dans ce silence, et puis faire l'expérience dans la foi de l'amour de Dieu. Cet amour qui continue de nous aimer malgré nos misères, malgré nos pauvretés, malgré nos échecs. C'est l'expérience renouvelée chaque jour de ceci, qui est au fil du temps est devenu non plus un devoir mais un besoin. C'est cette expérience-là qui me pacifie, dans laquelle toutes les tensions, toutes les velléités, toutes les souffrances même parfois de la journée se dissolvent d'une certaine manière et qui me permettent de repartir frais, peut-être d'être plus en mesure de me laisser prendre, de me donner.
Vous avez participé cette année à un grand rassemblement à Londres, oui. HTB Leadership. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que cet immense rassemblement au sujet de l'Église?
Je crois que c'est un des signes d'espoir les plus beaux et les plus significatifs que j'ai trouvé dans la vie de l'Église d'aujourd'hui. Il s'agit d'une initiative qui est partie d'une paroisse anglicane qui s'appelle HTB. C'est la paroisse d'où sont nés les cours Alpha, qui se sont répandus dans le monde entier. D'une manière tout à fait providentielle, je suis devenu très ami de Nicky Gumbel, de sa famille et de ceux qui sont responsables de la partie catholique de ce courant d'évangélisation. Et à cause de cela, de l'amitié vraiment, j'étais invité à participer à ces initiatives. J'y vais toujours, surtout pour vivre, pour faire l'expérience de communion profonde qu'on vit dans ces événements, dans laquelle il y a des chrétiens de toute confession religieuse, mais qui sont là, non pas conscients de leur dénomination, ou essayant de se déterminer à partir de cela, mais rassemblés par un souci profond, qui est le souci, je crois, qui doit être fondamental, qui est le plus urgent, la mission. Ce qui unit les chrétiens de plus en plus, au-delà de leurs différences historiques, c'est la conscience que nous avons besoin de retrouver l'urgence de la mission et de comprendre qu'il y a une identité entre mission et communion. Il n'y a de vraie mission que communautaire, et la vie communautaire chrétienne ou la communauté chrétienne n'a de sens, n'a d'authenticité que dans la mesure où elle est missionnaire. Je crois que ces événements, ce rassemblement et ceux qui suivent, parce qu'il y en a chaque année, et j'irai aussi au mois de mai prochain, sont vraiment une des représentations ecclésiales les plus significatives que j'ai jamais vues de cette unité, de cette symbiose qu'il y a entre communion et mission.
Et vous, frère Luigi Gioia, quand vous participez à ce genre de manifestation, comment vous vous sentez envoyé ?
Moi, je m'y sens envoyé, vraiment, ça peut paraître un peu drôle, mais comme quelqu'un qui va pour prier. C'est vrai que comme moine bénédictin olivetain, en tant que chrétien, bien sûr, je suis missionnaire comme tous les... Mais la mission, pour un moine bénédictin, a vécu surtout sous la forme de l'accueil. Il y a différentes manières de vivre cet accueil. Quand je vais là, j'accueille ce qui se vit, je le porte, j'essaie de le porter dans ma prière. Et curieusement, un matin où j'avais décidé de ne pas aller à la partie matinale de cette réunion, donc j'étais engouffré dans une église à côté de là et j'avais décidé de passer une heure, deux heures en prière comme ça pour essayer de métaboliser tout cela. C'est à ce moment-là que j'étais appelé d'urgence par ce visionnaire que Nicky Gumbel a envoyé son fils me chercher, il savait où j'étais, pour aller justement sur la scène à ce moment-là et vivre un moment qui a été très beau et après qui a beaucoup marqué, de communion avec un pasteur pentecôtiste américain que j'avais beaucoup apprécié. Il se trouve que le soir avant, j'avais dit à Nicky Gumbel combien je l'avais apprécié et lui, le matin, a décidé qu'il fallait que je dise ça devant tout le monde. Et ça a été un grand succès. Justement parce que, je crois, il a jailli d'un moment de prière, je ne l'avais pas recherché, c'était spontané et ça a été peut-être une manière comme cela qui vraiment venait de l'intérieur, de la vie spirituelle, de la prière, de manifester à quel point c'est par l'intérieur qu'on est unis, qu'on est en relation et qu'on se reconnaît les uns les autres comme serviteurs du Christ.
Une autre de vos particularités, frère Luigi Gioia, c'est que vous avez vécu aussi pendant 5 ans à Oxford pour étudier saint Augustin. Puis-je vous interroger sur une phrase qui revient souvent, « Mon poids, c'est mon amour ».
Mon poids, c'est mon amour. Le poids, pour Augustin, n'est pas ce qui nous conduit vers le bas, mais c'est ce qui nous conduit vers là où nous allons trouver notre paix. Et c'est la force de gravité qui nous conduit sur le sol sur lequel nous allons trouver nos racines, notre identité, notre paix. Et c'est l'amour, c'est le désir. Donc c'est ce quelque chose que Dieu a mis en nous et qu'il attise constamment par son esprit, par la parole, à travers la prière. C'est ce désir qui, si nous le laissons grandir, s'épanouir dans notre vie, va nous conduire là où nous allons trouver la joie véritable. Plus on se connaît, plus on fait l'expérience de sa pauvreté, de sa misère, plus on comprend combien à la fin on est incapable de tant de choses, on découvre ses limites au fur et à mesure qu'on avance dans les années. Notre seul espoir, c'est vraiment que le Seigneur puisse l'opérer en nous. Si ce n'est pas le Seigneur qui me tire, si ce n'est pas le Seigneur qui m'anime, qui me refait, qui refait ma jeunesse, comme dit le prophète chaque jour, je ne vais nulle part. Il est important de ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est une des phrases qui me frappe le plus dans la règle de saint Benoît. La bonne nouvelle, telle qu'elle a été résumée par saint Benoît, est vraiment celle-ci, que la miséricorde de Dieu est plus grande que toutes nos misères, que toutes nos pauvretés, et que même plus on fait cette expérience de misère, de pauvreté, plus on peut se jeter dans les bras de cet amour miséricordieux de Dieu. Je dirais ne pas désespérer de la miséricorde de Dieu, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu.
C'est avec cet entretien que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-le sur notre site internet www.radiovaticana.va.